Nous retrouvons à présent l'émission Parcours, présentée par Virginia Crespo.
Bonjour, soyez les bienvenus dans les studios de Canal Academy, à l'écoute de l'émission Parcours, qui aujourd'hui, pendant 50 minutes, vous propose de découvrir, en disant cela, je m'adresse aux générations les plus jeunes, ou de mieux connaître la vie, les idées, la réflexion, l'engagement et l'action de Jean Cluzel. Jean Cluzel, bonjour.
Bonjour.
Si nous cherchions ensemble deux mots qui puissent préfacer en quelque sorte cette émission, Parcours, qui vous est consacré aujourd'hui, pour donner la note juste de ce que nous allons évoquer ensemble, de votre parcours. Est-ce que ces mots ne seraient pas engagement et efficacité, l'efficacité de l'engagement?
Oui, si vous voulez, je crois qu'il faudrait peut-être tourner également autour de deux autres mots, le mot de responsabilité et le mot de l'utilité. Responsabilité au sens des engagements que l'on prend pour les honorer, et utilité au sens d'être utile. C'est une question de génération. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit de faire se rencontrer des gens d'âge comme ceux que l'on a lorsque l'on est à l'académie, avec des gens qui n'y sont pas encore, qui rentreront peut-être un jour. Et ma génération est celle de la guerre, 39-45. Nous étions les fils des pères qui ont combattu dans la guerre de 14-18. Et nous savions, nous, ceux qui avions 20 ans entre 39 et 45, que nous devions tenir la place de trois personnes. Pourquoi trois? Parce que à la guerre de 14-18, ce qu'on ne sait plus, c'est que nous avons eu en France 1,5 million de morts et plus d'un million de grands blessés. C'est-à-dire qu'il a manqué entre 1920 et 1945 l'équivalent de 2,5 million d'hommes en France. Et donc nous savions, ma génération, non pas que nous ayons sacrifié, mais qu'il fallait travailler, allez, j'exagère un tout petit peu, qu'il fallait pas travailler comme deux, mais comme trois. Donc c'est pourquoi, voyez-vous, cette notion d'utile a toujours été prédominante pour les gens de ma génération, non pas pour moi en particulier, mais pour nous tous. Et nos parents nous disaient, tu sais, il faut que tu tiennes la place au moins de deux, c'est-à-dire de celui qui manque.
Dans ces moments de résistance, de combat, on sait ce qui est utile, ce qui ne l'est pas. Il y aurait donc un sens à la vie?
Ah ben, c'est toute la question. C'est toute la question. Toute action doit avoir un sens, toute vie doit avoir un. Et le problème des jeunes générations actuellement, c'est peut-être d'être à la recherche d'un sens sans le trouver. Ma génération, nous avons, comme tous les jeunes, lorsqu'on a 15 ans, 25 ans, à la préadolescence, l'adolescence ou l'entrée dans la vie adulte, les trois phases, ça a été plus facile pour nous parce qu'il n'y avait pas à hésiter. La France a été battue, puis la France a pu renaître. Puis il a fallu reconstruire la France, vraiment, il n'y avait pas à hésiter. Le travail était là, il fallait s'y lancer. Et ce que nous disons actuellement, vous et moi, pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est que c'était vrai non seulement pour la France, mais c'était vrai pour l'Europe entière. Cette année, en 2005, nous commémorons le 60e anniversaire de la paix en Europe. Je ne dis pas de la capitulation allemande à dessein, je dis la paix, parce que c'était le nazisme, parce que c'était le stalinisme qui allait s'abattre sur la moitié de l'Europe. Nous n'avions pas à choisir, nous avions simplement à répondre au destin qui avait choisi pour nous.
Jean Cluzel, tout commence pour vous un certain 18 novembre 1923, dans le département de l'Allier. Vous voyez le jour à Moulins. On rappelle brièvement le département de l'Allier. C'est une région qui fait partie de l'Auvergne. Sa superficie correspond à la région du nord du Massif central, une région que l'on appelle le Bourbonnais. Vous êtes donc un enfant du Bourbonnais. Ce sont des racines qui comptent beaucoup pour vous.
Oui, bien sûr. Si vous me permettez de vous taquiner un peu, Nous ne faisons partie de l'Auvergne que pour des régions, pour des questions administratives. Oh, mais non, nous y tenons beaucoup.
Vous êtes pointilleux.
Non, nous y tenons beaucoup. Oui, parce que pendant des siècles, tantôt l'Auvergne a dominé le Bourbonnais, tantôt le Bourbonnais l'Auvergne, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes en Bourbonnais à la racine des rois Bourbons. Alors là, je ne fais pas un plaidoyer pour la monarchie, mais simplement une question d'histoire. La race des Bourbons, Capétiens Bourbons, est originaire de Bourbon-l'Archambault. Bourbon-l'Archambault, dont l'origine remonte aux Romains, Borvo, le dieu des eaux chaudes ou des eaux boueuses. Et c'est ainsi qu'au Xe siècle, un certain Aymar devient sire de Bourbon et dépend du duc d'Aquitaine, puisque à l'époque, l'Auvergne, et ce qui n'était pas encore le Bourbonnais, était de l'Aquitaine, ne dépendait pas de Paris, mais dépendait de Bordeaux. Eh bien, ce sire de Bourbon, Aymar, avait cette châtellenie de Bourbon-l'Archambault, et trois siècles après, il devient le duc de Bourbon. Son petit-fils, arrière-petit-fils, devient le duc de Bourbon, mais entre-temps, sa fille, une de ses arrière-petites-filles, Béatrix de Bourbon, se marie avec Robert de Clermont, le sixième fils de Saint-Louis. Et c'est par le sixième fils de Saint-Louis, Robert, que nous retrouvons l'origine capétienne. Et c'est ainsi que, en 1589, Henri IV devient roi de France. Il était le cousin au 22e degré avec Henri III, mort dans les conditions que l'on sait. Et si nous sommes fiers d'être Bourbonnais, ce n'est pas encore une fois pour des raisons de régime politique, mais c'est parce que cette lignée des Bourbons, qui a donné les rois depuis Henri IV jusqu'à Louis-Philippe, se poursuit, puisque nous avons le roi d'Espagne, qui est un Bourbon, qui descend du petit-fils en ligne directe de Louis XIV. Et le roi des Belges est un descendant des Orléans, donc également une branche collatérale des Bourbons, et le grand-duc de Luxembourg est également un Bourbon par une autre branche collatérale. C'est pourquoi Bourbonnais, voyez-vous, c'est l'histoire de France que nous vivons aussi, que nous essayons de représenter.
Jean Cluzel, vous écrivez dans les premières pages de « Démocratie oblige ». Nés en alliés, nous étions conscients de nos devoirs envers la communauté humaine que formait ce département, car si ce n'est pas un choix de naître à tel endroit, d'être issu de tel milieu social, d'avoir ou de ne pas avoir telle foi, c'est un choix d'assumer ses hasards et d'en faire les moyens d'une vie utile. On revient sur cette notion d'utilité.
Il est certain que la naissance, où qu'elle se trouve, et quelle que soit l'époque, est le fruit du hasard. Ou bien on est fils de roi, ou bien on est fils de manant. Et à partir de là, il faut assumer son destin. C'est-à-dire assumer sa responsabilité d'être humain, de femme ou d'homme, et de donner un sens à sa vie. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'avais 18 ans et qu'il a fallu prendre une décision. Et c'est à partir de l'âge de 18 ans que j'ai donné un sens à ma vie. Et c'est ce que chacune et chacun d'entre nous doit faire immanquablement, parce que être responsable, surmonter le hasard, donner un sens, être utile, vous permet de remplir votre rôle humain, tout simplement. Sans grands mots, mais on remplit son rôle humain.
Nous allons revenir sur cette période décisive de cet âge de 18 ans. Pour tracer la route de cette enfance, lisons quelques mots utilisés par cet homme des médias qui a préfacé votre livre « Élu du peuple ».
Jacques Chancel.
Chez Plon, Jacques Chancel. Il écrit, voici donc l'histoire d'un homme qui, à l'instar de Danton, a de la terre bien accrochée à la semelle de ses souliers, de la terre bourbonnaise. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le pays d'où il vient, la terre où il a ses racines, ses Branças. Donc, pays d'Oil, dit-il, et pays d'Oc, c'est entre ces deux régions.
C'est à la limite. Il est de fait que Branças est une toute petite commune au centre du Bourbonnais, il y a à peine 500 habitants. Et Bransat se trouve à la limite entre la Languedoc et la Langue-d'Oil, et se trouve en même temps à la limite du calcaire et du granit, et s'est trouvé à la ligne de démarcation en 1940 entre la zone occupée et la zone que l'on appelait libre. Donc vous voyez comment le présent se rattache au passé et comment les distinctions géographiques se joignent aux distinctions historiques.
De retour devant les micros de Canal Académie pour cette émission Parcours consacrée à Jean Cluzel. Jean Cluzel, Bransat, 600 habitants, vous avez fréquenté là-bas l'école communale, cet instituteur que vous appeliez monsieur qui vous a appris le beau, le vrai, le bien, dites-vous.
C'était à l'époque, oui, en 1936. Notre instituteur, nous l'appelions tout simplement le monsieur. Et puis son épouse, qui était également institutrice, nous l'appelions la dame. À l'époque, il y avait deux classes, précisément. Une classe des garçons, une classe des filles, avant que la gémination n'intervienne, je crois, en 1934 ou 1935. Mais la particularité de cette école, c'est qu'elle était une école très mélangée. Pourquoi mélangée ? Parce que nous étions des enfants d'agriculteurs essentiellement, quelques artisans, quelques commerçants. Mais surtout, il y avait parmi nous, nous étions entre 80 et 100, garçons et filles, grands et petits, il y avait surtout 15 à 20 enfants de l'assistance publique. Pourquoi ? Parce que l'Allier était pendant longtemps un département d'accueil d'enfants de l'assistance publique de Paris et du département avoisinant. C'était des enfants qui avaient été abandonnés par les parents, par la mère en principe, qui étaient recueillis par l'assistance publique à cette époque et répartis dans des départements d'accueil. Ces enfants n'étaient pas habillés comme nous. Ils avaient des pèlerines, ils avaient un uniforme d'enfants assistés. On les appelait les enfants assistés. Ce que je puis dire, c'est que, m'en souvenant bien, nous n'avions pas vis-à-vis d'eux de sentiment d'ostracisme ou de répulsion, comme on aurait pu le croire. Nous étions une communauté d'enfants sans problème de race, de faciès ou autre. Et nos écoles étaient des écoles d'un calme absolu. Il régnait dans la classe un silence total. Nous parcourions les uns et les autres. Moi, je parcourais 3 kilomètres par jour, 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour, à pied. De nos jours, ça n'est pas envisageable. Et en plus, nous allions au catéchisme, à l'église, et puis ensuite à l'école. Et tout cela se passait dans une discipline totale, mais en même temps de grande gentillesse. Et si nous l'appelions, je terminerai par là, le monsieur et la dame, c'est parce que nous avions envers eux un grand respect. Et que c'était un petit peu le respect que l'on devait aux messieurs et aux dames qui, socialement parlant, étaient plus élevés que nous ne l'étions, nous. Voilà, c'était ce que l'on pensait à l'époque. Bien entendu, ça n'a plus aucune comparaison avec le début du 21e siècle, j'en ai pleine conscience. Mais après tout, ce sont des souvenirs.
Vous étiez un enfant, un élève studieux, vous aimiez l'étude.
Tout naturellement, oui. Je n'ai absolument aucun mérite. Je suis allé à l'école très tard. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on allait à l'école à 5 ans révolus. Donc moi, je suis allé à l'école, j'avais presque 6 ans. J'avoue que je l'ai beaucoup apprécié. Comme président de conseil général, j'ai facilité la construction d'écoles maternelles, président de conseil général dans l'Allier. J'avoue que lorsque j'allais visiter, j'y suis allé souvent visiter les écoles maternelles. Et lorsque je voyais des bambins de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça me serrait un petit peu le cœur. Ceci étant, les institutrices et instituteurs qui étaient là s'en occupaient bien et me disaient que c'était pour leur bien, donc je l'ai cru, mais je n'en suis pas tout à fait persuadé. Je pense en effet qu'un jeune enfant a besoin aussi de sa maman.
Vous aviez un caractère d'enfant solitaire ou vous aimiez déjà regrouper tout le monde, lancer des actions ?
Non, je n'étais ni solitaire ni remonter tout le monde, mais pour des raisons sur lesquelles je n'insisterai pas, mais qui tiennent à la santé de ma mère, j'étais fils unique. Et fils unique, cela vous crée des problèmes qu'il faut surmonter. Et l'école est à ce moment-là la nécessité, est à ce moment-là le moyen, pardon, de surmonter cette solitude. Mais en même temps, être fils unique vous conduit tout naturellement à la lecture, à la réflexion et au jeu. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes obligé de jouer vous-même. Alors je faisais une collection de timbres, alors je lisais. Et comme ma mère, qui était la première de ma lignée à avoir dépassé sa vieille d'études, nous sommes issus d'un milieu rural qui n'a commencé à fréquenter l'école qu'au début du XXe siècle. Et ma mère avait acheté, quand elle était jeune fille, des livres de littérature classique à 10 centimes le petit volume, tout petit. Elle avait acheté comme ça toute la littérature antique, grecque, romaine, française. Et bien, je lisais.
Votre maman s'occupait de la maison et votre père exploitait une carrière.
Oui, c'est une vieille histoire de famille, c'est un milieu rural. Dans les années 1825-1840, on a découvert en France l'intérêt de mettre de la chaux dans les terres argileuses pour les rendre plus fines et accélérer la poussée de l'herbe et en même temps donner aux animaux qui broutaient cette herbe. Excusez-moi de ces détails techniques, aujourd'hui ça n'a plus beaucoup d'importance parce qu'on fait autrement, mais a permis d'améliorer la carcasse des charolais, puisque l'Allier est l'un des berceaux de la race charolaise. Avant le chaulage des terres, les animaux charolais étaient faméliques, et grâce à la chaux apportée dans les terres argileuses, les récoltes ont été plus importantes et l'ossification des animaux s'est faite plus facilement. Et à l'époque, il y avait dans l'Allier une cinquantaine de fabricants de chaux qui employaient 3 ou 4 personnes avec chacune 2 chevaux et qui conduisaient donc la chaux, c'est-à-dire la pierre calcaire cuite, c'est la chaux. La chaux peut faire soit du ciment, soit tout simplement de l'engrais. Et c'est ce qu'ont fait mes ancêtres depuis 1825, avec 3 ou 4 ouvriers, à la main, bien entendu, et avec des chevaux.
Alors on voit ce jeune garçon qui aime la nature, qui l'environne, qui aime sa région, qui dépasse le niveau de l'école primaire. Alors, qui va vous pousser vers ces études supérieures ? Fac de droit, Sciences Po, vous auriez pu rentrer à l'ENA qui venait de se créer, mais non, vous allez choisir un autre chemin. Alors d'abord, pourquoi ces études ?
Vous avez raison de poser la question. Normalement, je n'aurais jamais dû faire de telles études. Quelle était ma destinée ? Ma destinée, normalement, était de faire ce que l'on faisait dans ma famille depuis 4 générations. C'est-à-dire avec 5 ou 6 ouvriers, casser de la pierre pour mettre sur les routes ou faire cuire de la pierre calcaire pour mettre dans les champs. Ça, c'était ma destinée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que fin de 1939, arrive un Iranien à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Saint-Pourçain-sur-Sioule est chef-lieu de canton, 5000 habitants. Pourquoi arrive cet Iranien ? Parce qu'il faisait des études à Paris, faisait des études de droit, et il avait été assigné à résidence en province. Et il arrive à Saint-Pourçain. Alors, les braves gens de Saint-Pourçain s'occupent de lui, l'invitent, et il fait la connaissance de mes parents. Et puis, moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Et puis, nous parlons. Et puis, comme j'avais lu un petit peu, je viens de vous le dire, donc il s'intéresse à moi. Et puis, il me parle de sa vie, il me parle de l'Iran, il me parle de la guerre contre l'Allemagne. Et puis, c'est lui qui me dit un jour, mais vous intéressez à ce qui se passe ailleurs. Savez-vous qu'il existe une école qui s'appelle l'école des sciences politiques ? Non, je lui dis, je ne savais pas du tout, j'ignorais totalement. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est lui qui m'a appris que cette école existait, car dans ma famille, et bien loin à la ronde de Bransa, on ignorait totalement l'existence. On savait qu'il existait des facultés de droit, de lettres ou autres. On savait qu'il existait Polytechnique, Normale supérieure, etc. Mais on ne savait pas qu'existait l'école des sciences politiques. Et comme j'avais été malade pendant 3 ans et que j'avais dû interrompre mes études secondaires pendant cette même durée, donc j'avais quelques problèmes de poursuivre le cursus normal. Et voilà, voilà comment les choses sont arrivées. Là encore, une conséquence directe de la guerre, conséquence heureuse pour ce qui me concerne. Elle était hélas malheureuse pour tous ceux qui restèrent sur les champs de bataille ou dans les camps de concentration.
Vous aviez quel âge à l'époque de la résistance et par rapport à vos études supérieures, ça se situe quand ?
Alors, étant né en 23, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais donc 16 ans quand la guerre a éclaté. Et l'épisode de l'Iranien se situe à l'automne 39. Et ensuite, je me suis engagé dans la jeunesse étudiante chrétienne à Pâques 1941, à 18 ans. Et c'est à partir de là que tout le reste est suivi et que tout s'est enchaîné normalement.
Alors, qu'est-ce qui a suivi ? Qu'est-ce qui s'est enchaîné après cette période de la résistance ? C'est cette période difficile qui vous a refait visiter votre vie ?
Ah ben, oui, bien sûr, parce que nous tous, ceux qui nous écoutent, vous, moi, nous avons notre famille. Nous avons l'école et puis nous avons la vie qui nous forme. Alors, les gens de ma génération ont eu la chance de vivre dans les mouvements de jeunesse, soit la résistance armée pour les uns, soit la résistance pour les autres, c'est-à-dire témoignage chrétien, ce qui était mon cas. Et ayant pris la responsabilité de la section de GEC, jeunesse étudiante chrétienne, à Cussé et à Vichy en 41 et 42. Je me trouvais propulsé en octobre 42 à Lyon, au secrétariat général de la GEC pour la zone sud, et l'année d'après, à la rentrée 43, au secrétariat général de la GEC pour l'ensemble de la France, où j'avais comme secrétaire général un homme qui est très connu, René Raymond, l'historien, qui est membre de l'Académie française. Et nous avions derrière nous, nous étions 12 au secrétariat général. J'étais responsable, pour ce qui me concerne, de l'ensemble de l'AGEC secondaire de France. Et nous avions derrière nous, en chiffres ronds, 10 000 militants. Nous n'avions aucun subside de l'État. Et nous faisions tout nous-mêmes avec une secrétaire en tout et pour tout. Et nous faisions marcher un mouvement de 10 000 militants avec messages, c'est-à-dire journal, avec camp de formation, avec la diffusion de témoignages chrétiens, etc., etc. À un moment où, lorsque l'on diffusait témoignages chrétiens, personne ne croyait ce que nous écrivions. Enfin, personne. Le plus grand nombre ne croyait pas ce que nous écrivions.
Et après cette période, vous allez entrer comme ouvrier spécialisé dans une usine de Valence. Nous vous retrouvons tout de suite, Jean Cluzel, après avoir fait un rapide parcours dans un autre univers musical, toujours de Jean-Sébastien Bach, avec sa chaconne en ré mineur, interprétée par Alexis Weissenberg. Jean Cluzel, de l'Académie des sciences morales et politiques, est l'invité de l'émission Parcours, aujourd'hui devant les micros de Canal Académie. Jean Cluzel, vous apprenez de l'intérieur le monde du travail. Vous allez apprendre la fraternité des hommes du bas de l'échelle professionnelle à Bransa. dans la carrière. Vous poussez les wagonnets, vous chargez les camions, vous faites la comptabilité lorsque la vie arrive le soir. De 6 ouvriers, cette entreprise de forme artisanale va passer à 200 personnes. Alors expliquez-nous cet engagement nouveau dans votre vie.
Vous me permettrez de faire un tout petit retour en arrière, parce que à Pâques 1941, j'étais à Vichy, au lycée, et nous avions un aumônier à la jeunesse étudiante chrétienne à la section qui n'était autre que le père Victor Dillard. Victor Dillard, jésuite, qui avait été engagé à la guerre de 14-18, qui, entre les deux guerres, avait fait sa spécialité de l'économie sociale, mais aussi de l'économie politique et de la finance. Il avait rencontré le chancelier d'Autriche, il avait rencontré Roosevelt, il avait suivi l'expérience du New Deal, et il avait consacré sa vie, pendant un an et demi, deux ans, à Vichy, à la formation des jeunes bourbonnais. Jeunes ouvriers, il était à la fois aumônier de la JOC et de la GEC et des fonctionnaires repliés à Vichy. Et il nous disait quoi ? Il nous disait ne vous préparez pas à une vie de haut fonctionnaire. Ne vous préparez pas à une vie facile. Préparez-vous à une vie difficile. Et il y aura toujours en France assez de gens pour briguer les postes importants. Vous, jeunes étudiants, surtout vous, restez à la base, vous êtes bourbonnais, vivez dans ce bourbonnais, travaillez avec les bourbonnais et essayez d'améliorer son sort à tous les plans, social, économique, culturel. Ce jésuite, allant au bout de son engagement, en 1943, on me permettra de dire toute la vérité, je sais qu'elle est difficile à entendre, mais je porte un témoignage en conscience. En 1943, est parti en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, volontaire. Il n'est pas parti volontaire pour aider l'Allemagne. Il est parti volontaire pour, a-t-il dit, a-t-il écrit et a-t-il fait, que la classe ouvrière ne soit pas déportée sans qu'il y ait des prêtres catholiques. Et pour des pasteurs protestants, ce fut la même chose. Quand on a eu la chance, pour un certain nombre de mes camarades et pour moi, de vivre avec un prêtre tel que lui, on ne peut pas ne pas en être marqué jusqu'à la fin de ses jours. Il nous a laissé, il a été dénoncé par des Français à Wuppertal-Barmen dans la Ruhr, et il est parti à Dachau où il est mort en janvier 1945. Et parce que cet homme nous avait, ce prêtre nous avait donné ce message, restez à la base, travaillez à la base, c'est là où l'on a besoin de vous, que nous l'avons fait un certain nombre de mes camarades et moi-même. Et c'est la raison pour laquelle, ayant terminé Sciences Po en 5 ans et non pas en 3 ans, pour les raisons que je viens d'expliquer, ayant terminé la licence en droit, j'ai voulu me mettre, j'ai voulu faire une autre école, l'école du travail. Vous le disiez tout à l'heure, qui est en même temps une école de fraternité. Et c'est pourquoi j'ai fait un stage à la communauté Bois-Mondeau à Valence. Bois-Mondeau, pourquoi ? Boîtier de montres. Et cette communauté avait été fondée par un monsieur barbu, qui s'appelle Barbu, excusez-moi, et qui a été candidat au présidentiel en 1965. Cette communauté de travail était une communauté donc en dehors du système capitaliste, était une sorte de coopérative d'ouvriers, et à l'époque où j'y suis allé, leur président s'appelait Mermoz, c'était son surnom qu'il avait conservé de la résistance. À l'époque, la France avait été libérée. Et à la fin de mon stage, je suis allé le trouver. Je savais qu'il était communiste. Nous avions sympathisé tous les deux. Lui, communiste, moi, catholique, mais et nous nous étions retrouvés. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire comme vous une communauté. Il me dit, voyons voir, l'entreprise que vous envisagez de convertir en communauté a combien de personnes? Je dis 5. Alors il s'est mis il est parti d'un grand éclat de rire. Il m'a dit, vous ne pouvez pas faire une communauté à 5, ça ne tiendra pas 5 jours. Et alors, j'ai dit, quoi? Alors il m'a dit, comme le père Dillard, vous voyez, le communiste, c'était cela en 47, à l'été 47, m'a dit la même chose que le jésuite en 1941, 6 ans avant. Il m'a dit, d'abord vous travaillez, ensuite vous travaillez. Quand vous avez fini, vous continuez à travailler, et puis après vous verrez. Alors c'est ce que j'ai fait, et ma femme m'a accompagné dans cette aventure, et Mermoz avait parfaitement eu raison, parce que nous avions dans cette entreprise moribonde à la suite des phénomènes de la guerre. Il restait 5 ouvriers, 1 camion, 2 chevaux et 2 tombereaux. Voilà. Alors, ça a duré pour moi 15 ans. 15 ans pour travailler avec ces hommes avec lesquels j'ai vécu vraiment des moments de fraternité indicibles. Et c'est parce que c'est indicible, je n'en parlerai pas. Ce sont des choses que l'on garde pour soi. Et il m'a fallu 15 ans pour ce que les marxistes appellent une certaine accumulation capitaliste qui m'a permis d'emprunter à une banque, parce que pendant 15 ans, je n'ai pas pu emprunter. Il a fallu qu'on fasse des économies sur les recettes jour après jour, mois après mois, et après, qui a pu me permettre de lancer et de donner à cette entreprise une allure plus humaine et, je dois le dire aussi, plus sociale.
Une autre figure, un autre personnage qui vous a aidé à cette construction et à cette prise de choix, de responsabilité dans votre vie, c'est Émile Guillaumin.
Ça, c'est une autre histoire. Lorsque nous nous sommes retrouvés avec ma femme, nous avions à nous deux 43 ans. C'était pas très... Et nous avions pas grand-chose, mais tout le monde avait pas grand-chose à l'époque. C'était pas du tout différent. Nous avions la chance d'avoir une maison et puis d'avoir un petit travail avec les autres ouvriers. C'était tout. Alors il restait les soirées, il restait les dimanches, parce qu'on travaillait à l'époque 6 jours sur 7. Il restait les soirées et les dimanches. Il y avait évidemment une radio, mais cette radio de l'époque n'était pas extraordinaire. Il n'y avait pas de télévision. La vie sociale, j'ai oublié de dire que dans le hameau, nous étions 5 familles. Donc la vie sociale était réduite à ces 5 familles. Et comme ma femme et moi avions le goût de la lecture, ben, nous avons cherché les livres. Alors nous avons cherché les livres qui avaient été écrits par des écrivains bourbonnais. Et alors, aux stupeurs, aux joies, nous nous trouvons avec des écrivains qui sont peut-être peu connus, mais qui sont toujours de bons écrivains, et vous nommez Émile Guillaumin. Alors Émile Guillaumin m'a intéressé parce que c'est le premier écrivain paysan au monde, en tout cas, qui est écrit en français. On avait avant lui écrit Virgile, Madame de Sévigné, d'autres encore. Mais jamais un paysan qui est écrit lui-même, c'est-à-dire qui, le jour, ait travaillé sa terre et pensé ses bêtes, comme l'on dit, et qui, le soir, à la veillée, se mettait à écrire.
La vie d'un simple, un livre maître connu voilà. Dans le monde entier.
Voilà, oui, heureusement, c'est ce qu'il a fait de plus beau. Et Émile Guillaumin était non seulement un paysan, non seulement un écrivain, mais en plus, il était un apôtre social. Et c'est ce qui m'a chez lui attiré tout de suite, parce que, social un peu utopiste, parce qu'il disait, il suffit dans sa modeste sphère, de changer un peu les choses, et puis ensuite, par rayonnement, tout se mettra à changer. Vous voyez son utopie. Et donc, il habitait Ygrande, un petit pays à côté de Bransat. Pareil, 600-700 habitants ou 1000 habitants, peu importe, enfin, peu important. Et il s'imaginait changer la France à partir d'Ygrande. Mais c'est formidable, ça. Et puis, nous avions aussi, alors tout à fait à l'opposé, Valéry Larbaud, qui, lui, était un grand bourgeois, un dilettante, mais un grand artiste, et qui a écrit sur la vie paysanne, parce qu'il a vécu longtemps à quelques kilomètres du reste de Bransat, dans une propriété familiale, qui a écrit ici aussi beaucoup sur la vie paysanne. Donc, nous nous sommes raccrochés avec ma femme à des auteurs bourbonnais. Nous connaissions les autres auteurs, bien entendu, au niveau national, parisien, mais nous avons trouvé des gens avec qui parler et des gens qui parlaient notre langage.
Alors, cette littérature, ces échanges de pensées, de réflexions, renforcent ce sens de l'engagement, cette décision, ce choix de l'engagement. Vous vous engagez dans des institutions sociales et en 1955, avec l'aide de deux amis seulement, vous créez le premier club de province. Position. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club de province? Rappelez-nous, Jean Cluzel, ce qu'était à l'origine un club sous la Révolution.
Alors, les clubs sous la Révolution étaient des sociétés de pensée et de réflexion. Les plus connus, c'était le club des Jacobins ou le club des Cordeliers. Et c'est là que sont nés les grands ténors de la Révolution, un Danton, un Barras, un Robespierre et d'autres encore. Et ça a été, du reste, une période d'un bouleversement intellectuel et politique. Et ça a été un creuset pour la formation de tous ces hommes qui ont marqué la Révolution, avec à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs, c'est-à-dire les excès. Car les révolutionnaires, ceux que Jean Tullard, mon confrère et ami de l'Académie des sciences morales et politiques, appelle les thermidoriens, n'avaient pas la sagesse d'un Descartes. Et c'est ce qui leur a manqué. Et c'est ce qui différencie essentiellement la France du XVIIIe siècle de l'Angleterre du XVIIIe siècle, où le protestantisme anglais, la religion anglicane, pardon, enfin, pareil, quelques différences. Le protestantisme anglais a donné naissance à des philosophes et des moralistes qui ont évité à l'Angleterre les excès que nous avons connus en France sous la Révolution. Alors, les clubs qui se sont créés en France dans les années 55-60 sont évidemment différents, mais partent du même principe de réflexion en commun pour mieux connaître les problèmes du moment et pour tenter de leur apporter des solutions. En fait, en vous donnant ces trois phrases, je rappelle sans le vouloir les trois maîtres mots des mouvements de jeunes sous l'occupation et la résistance. Ces trois maîtres mots étaient voir, juger, agir. C'est une méthode qui en vaut bien une autre. Elle paraît simpliste à le dire et peut-être, enfin, je suppose, à l'entendre. Mais si on se donne la peine de voir, c'est-à-dire lucidement, et de ne pas se laisser abuser par les apparences, si l'on se donne la peine de juger, non pas moralement, mais de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, et si on donne la peine d'agir réellement avec d'autres, pour le bien commun, alors on peut changer les choses. Donc, les clubs qui se créent en France, Club Jean Moulin, qui a été le plus connu puisqu'il était à Paris, mais vous aviez en France le club Tocqueville, par exemple, à Lyon. Et nous avions, dans les années, au début des années 50, avec deux amis, vous avez raison de le souligner tout à l'heure, nous avons voulu changer le département de l'Allier en allant trouver les gens chez eux. Et alors, nous nous sommes mis dans l'idée, pendant tous les hivers, de faire des veillées. Parce que vous savez, à la campagne, dans toute la campagne française, on faisait des veillées les uns chez les autres, les paysans, etc. C'était formidable. Ici, on buvait un peu de vin blanc. Là, on cassait des noix. Ailleurs, on triait des châtaignes ou autres. Et nous nous sommes dit, pendant les hivers des années 51, 52, 53, 54, pendant trois mois, si on échangeait des idées. Alors nous sommes allés, et puis nous arrivions dans un village, on avait préparé un petit peu avec des amis, puis on allait soit à la mairie, soit chez un ami, et puis on se trouvait 4 ou 5, 5 ou 6. Il m'est même arrivé une fois n'avoir eu qu'un auditeur. C'était au Maillet de Montagne, je n'ai jamais oublié, c'était à 30 km de Vichy. Mais nous avons ainsi créé un petit réseau, un relativement important pour l'époque et pour un département. Nous avions en effet le chiffre, mais présent à la mémoire, nous avions 2500 noms à travers le département. Le département, je le situe à l'époque, nous étions 380 000 habitants, maintenant 350 000, nous avons un peu diminué. Mais donc en 54, nous avions une sorte de trésor, car on ne peut pas parler d'autre chose que d'hommes. Nous avions un trésor de 2500 noms de personnes qui étaient venues nous entendre, qui avaient discuté avec nous pendant trois hivers. Et puis nous nous sommes dit, alors là nous étions 12, En janvier 55, ça se passait chez moi, à Bransat, chez nous avec ma femme. Nous étions 12 et nous avons dit, eh bien, si l'on crée un club à Paris, pourquoi on n'en créerait pas un à Bransat ? C'est parti comme ça. Puis nous nous sommes enthousiasmés les uns et les autres, et puis là, la chaleur communicante, et nous avons dit, bah, nous allons créer un club. Et nous l'avons appelé Position. Pourquoi Position ? Parce que sous la Résistance, il y avait eu à Saint-Étienne un club qui s'appelait Position. C'était la suite d'Emmanuel Mounier. Et j'avais été mêlé à ce moment-là à ce club. Il avait disparu pour les raisons que l'on suppose. Et donc, nous avons voulu, avec mes amis, en 1955, affirmer notre filiation avec ce club de Saint-Étienne qui avait disparu en 1943-1944, à la suite qui avait été créé à la suite du mouvement d'Emmanuel Mounier, le mouvement Esprit. Et nous avons adressé une sorte de petit manifeste à ces 2500 personnes. Alors ma femme a tapé notre manifeste et puis elle a la Ronéo, elle a tourné, elle a fait les feuillets Ronéoté, pardon. Et puis on a diffusé ça. Quelle n'a pas été notre surprise de recevoir 122 réponses, exactement 122, de gens qui à travers le département nous ont dit « Mais ce que vous faites nous intéresse ?» Mais c'est formidable ce que vous faites. Est-ce qu'on peut se joindre à vous ? Bon, on leur a dit oui, bien sûr. Et puis, à partir de février 55, nous avons dit, on va se réunir une dizaine de fois par an. Donc, on ne va pas s'arrêter à l'hiver, on va se réunir. Et nous allons étudier les problèmes locaux de vie, les problèmes départementaux, les problèmes régionaux, parce qu'on parlait déjà de la région, et puis les problèmes nationaux, et pourquoi pas les problèmes européens. 5 catégories de problèmes.
Et nous allons voir, dans un instant, après une pause musicale mozartienne, un extrait de La Flûte Enchantée, comment ce mouvement, ce club Position, est devenu une revue. Jean Cluzel, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, sénateur de l'Allier, conseiller général durant 25 ans et président de l'Assemblée départementale pendant 13 ans, auteur d'ouvrages sur le droit public, la presse, l'audiovisuel, Jean Cluzel est aujourd'hui l'invité de l'émission Parcours devant les micros de Canal Académie. Jean Cluzel, la revue Position.
Alors la revue Position est née du petit bulletin Position. Nous avons dit précédemment que nous nous réunissions tous les mois dans ce qui était et ce qui est toujours notre maison familiale à Bransat dans le département de l'Allier. Et nous étudions tous les problèmes, y compris les problèmes personnels, puisque nous avons été le premier club à parler de birth control, à parler de la régulation des naissances. Nous avons été le premier club où se sont rencontrés des prêtres et des instituteurs, des gens de gauche et des gens de droite. Position, cela veut dire toutes les positions. Nous les étudions, nous réfléchissons. Et ensuite, chacun prend l'engagement public qu'il souhaite. Mais en demandant à chacun de prendre un engagement public ou deux engagements publics, c'est-à-dire ne pas vivre pour soi, mais essayer de vivre, pas toujours pour les autres, mais en tout cas avec les autres. Et cela dure depuis 1955. Nous avons fêté en janvier 2005 le 50e anniversaire de ce club Position. Ne m'en veuillez pas avec un tout petit peu d'orgueil de dire que c'est le seul exemple vécu en France. Tous les clubs naissent et meurent. Et ils naissent et ils meurent pourquoi ? C'est parce que, sans aucune exception, ils se sont tous à une certaine partie de leur existence rattachée à un mouvement politique. Et donc, ils suivent la montée ou la déclin du mouvement politique. Position, nous nous sommes toujours abstenus de nous rattacher à un mouvement politique, bien que certains d'entre nous ayons pris des engagements à titre personnel. Mais le club, en tant que tel, jamais. Alors, dans les années 90, étant à l'époque sénateur, ayant lancé avec quelques amis un autre mouvement qui était celui des clubs audiovisuels de France, nous en parlerons si vous le souhaitez, nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester à un bulletin qui paraît tous les deux ou trois mois à raison de 8 pages chaque fois, il faut aller au-delà. Et nous avons donc créé la revue Position et Médias, qui paraît sous le patronage de l'UNESCO, qui est un patronage uniquement moral, bien entendu, et ça se conçoit. C'est une revue qui maintenant a un minimum de renommée, je crois, et qui paraît 4 fois par an.
Jean Cluzel, nos auditeurs, à l'écoute de ce parcours, auront saisi le côté particulier de cet itinéraire politique, un peu à contresens des modes et des idées reçues. Un idéal humaniste qui s'accompagne d'engagement, d'action sur le terrain. Vous participez à la vie politique française. Avez-vous le sentiment de faire de la politique ?
Oui, je fais de la politique, bien entendu, puisque je suis entré dans la politique au sens large du terme quand j'avais 18 ans. Ça fait donc très longtemps de cela. Cela fait très exactement 64 ans. Mais je n'ai jamais fait de politique partisane. Je m'en suis toujours abstenu. Je fais partie d'un camp, qui est le camp centriste, mais je ne fais pas partie d'un clan. C'est la grande différence, voyez-vous, que j'ai toujours fait entre le camp et le clan, ce qui m'a permis d'avoir des relations humaines avec des femmes et des hommes de toutes nuances politiques et de tous milieux sociaux. Ne s'excluent à mes yeux que les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche ou autre, parce que celle ou celui qui se trouve aux extrêmes, par définition, refuse la tolérance. Et il n'y a pas d'humanisme possible, pas de démocratie possible sans tolérance.
Jean Cluzel, pensez-vous que notre actuelle démocratie fonctionne réellement avec une participation au pouvoir du citoyen et de la citoyenne ? On dit que l'humanité est devant nous, la démocratie l'est-elle aussi ?
Là, vous évoquez une question qui est dramatique. Sommes-nous en démocratie ? Me posez-vous la question, comme sans que vous me l'ayez demandé. J'ai pris la décision de vous répondre en mon âme et conscience. Je ne pense pas que nous soyons réellement en démocratie. Nous sommes en démocratie formelle, mais pas réelle. Mais je ne pense pas c'est pas la même raison que celle que vous venez d'évoquer. Si j'ai bien compris, vous évoquez l'absence de participation suffisante à certains de nos votes. Et ça n'est pas une... Ce n'est pas une marque de manque de démocratie, c'est plus grave que ça.
Je pense à la tutelle sclérosante aussi, selon vos termes, du pouvoir central. Et vous avez lutté contre
Oui, mais les choses ont évolué depuis que j'ai écrit cela. Vous avez raison, j'ai écrit cela il y a 40 ans et la tutelle du pouvoir central était énorme. Mais serrions les questions. Vous parliez tout à l'heure de l'abstentionnisme. Alors là... L'abstentionnisme est, à mes yeux, révoltant parce que des gens sont morts, des gens se sont battus pour avoir le droit de vote et pour s'exprimer et pour donner son avis. Et par conséquent, les gens qui se refusent à donner cet avis, s'ils n'ont pas des raisons suffisantes, maladie ou autre, et encore ils peuvent voter par correspondance, j'avoue que je ne le comprends pas. Ça ne fausse pas pour autant la démocratie, parce que, après tout, la démocratie se fait avec ceux qui votent, celles et ceux qui votent. Et ça ne change même pas les résultats des votes, parce que les abstentionnistes, quoi qu'on en dise, se répartissent un petit peu entre toutes les possibilités de vote. Non, ce qui est plus grave, c'est que chez nous, depuis une bonne trentaine d'années, la démocratie représentative s'est effacée devant 2 autres démocraties. La démocratie d'émotion et la démocratie des corporatistes, et ni l'une ni l'autre ne sont des démocraties.
Qu'est-ce que la démocratie d'émotion ?
La démocratie d'émotion, c'est celle qui est véhiculée par les médias. Lorsque on vous montre une petite fille qui est en train, qui a été violée, dont le corps a été traîné, brûlé ou autre, comme tout récemment, etc. Et à ce moment-là, la vision que l'on a de la société est une vision qui n'est plus la vision réelle, parce que cette image vous prend la totalité de l'esprit et la totalité du cœur. Et par conséquent, votre jugement est faussé. N'est-ce pas? La démocratie d'émotion fausse le jugement. Or, la démocratie politique, elle nécessite la totalité du jugement et la totalité du jugement indépendant. N'est-ce pas? Le grand travail que nous avons à faire sur chacune et chacun d'entre nous, c'est d'arriver à notre indépendance et d'arriver à notre liberté intérieure. Et c'est notre indépendance qui nous permet de maîtriser notre liberté intérieure.
Est-ce que c'est ce problème capital par rapport aux médias qui vous a fait justement vous investir dans ce domaine et travailler
Non, c'est autre chose, je vais vous l'expliquer, mais si vous me permettez, je voudrais quand même dire pourquoi la démocratie en France est malade par les corporatismes. Parce que la démocratie peut être mise en place de différentes façons. Nous le savons, nous avons notre système français, le système anglais est différent, le système américain est différent, le système allemand est différent, le système luxembourgeois est différent, etc. etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans tous les systèmes, c'est la représentation parlementaire qui doit avoir le dernier mot. On est pour ou on est contre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais c'est la règle du jeu. Sauf en France. En France, ce sont les pouvoirs corporatistes qui imposent leur force au Parlement et qui font reculer le gouvernement. Alors, ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible. Et les Français, hélas, en paient le prix et le prix élevé. Parce que l'influence de la domination corporatiste nous entraîne en France à une alternance politique automatique. Et vous ne pouvez pas diriger un pays normalement si une tendance est présente au gouvernement seulement pour 2 ou 4 ans, comme c'est le cas en France depuis très exactement 1978. La majorité de 78 est battue en 81. La majorité de 81 est battue en 86. La majorité de 86 est battue en 88. La majorité de 88 est battue en 93. La majorité de 93 est battue en 95. Celle de 95 est battue en 97. Celle de 97 en 2002, etc. etc.
C'est ce qu'on appelle l'alternance, non ?
Automatique. Ce n'est pas l'alternance démocratique. C'est l'alternance automatique. C'est tout à fait différent.
Alors, la solution ?
Alors, la solution, bien, c'est d'être aussi sérieux que les Américains, les Anglais ou les Allemands, c'est de ne pas laisser place au pouvoir corporatiste et de laisser la place soit à la gauche, soit à la droite de gouverner pendant une dizaine d'années pour mettre en place ces idées. Et puis ensuite, l'alternance démocratique permet à d'autres idées de gouverner le pays. Mais ce n'est pas automatique, c'est choisi de façon démocratique.
Jean Cluzel, Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Il faut restaurer l'homme, c'est l'essence de ma culture, c'est lui la clé de ma communauté, c'est lui le principe de ma victoire. » Et Jacques Chancel aurait pu vous demander « Et Dieu dans tout ça ?»
Oui, bien sûr. Et ne manquez pas Jacques Chancel lorsqu'il faisait ces fameuses émissions,
radioscopie,
bien entendu, qui ont fait le tour du monde. Et lorsqu'il m'est arrivé de recevoir au Sénat des gens d'autres pays, d'autres continents, il ne manquait pas de me parler des radioscopies de Jacques Chancel, parce que c'était diffusé, c'était pas Internet à l'époque, mais c'était les cassettes. Et Dieu dans tout ça, ben oui. C'est le fond de la question, c'est l'homme et c'est Dieu. Et c'est ce pourquoi nous sommes sur Terre. Il s'agit de savoir quelle est notre conception de l'homme, il s'agit de savoir quels sont nos rapports avec Dieu. Et ça a été, pour ce qui me concerne, ma révolution intérieure quand j'avais 18 ans et je n'ai pas changé depuis. Et c'est pourquoi cette phrase que vous avez rappelée si opportunément se trouve à chaque livraison dans la page de garde de la revue Position Immédiat. Parce que pour moi, c'est le fil conducteur.
C'est une sorte de sacerdoce dans lequel l'homme politique doit s'engager.
Oh, n'exagérons pas. Vous savez, on dit tellement de choses sur les hommes politiques.
Au service d'eux.
Il faut essayer d'être au service d'un idéal. N'est-ce pas ? Il s'agit de proposer des objectifs à une collectivité, qu'elle soit locale ou nationale ou européenne. On propose des objectifs. Si on est élu sur ces objectifs, que fait-on ? On recherche les moyens pour les atteindre. Et si on a réussi à rassembler ces moyens, on définit les meilleures méthodes. Voilà ce qu'il faut faire. Enfin, ce que nous avons essayé de faire, mes amis et moi-même, tout au long de notre vie, c'est de définir des objectifs, de les proposer. Vous m'avez dit tout à l'heure que je n'avais pas fait de politique partisane, c'est vrai. Je n'ai pas pu être élu à l'Assemblée nationale, j'étais candidat dans l'Allier deux fois, je n'ai pas pu être député parce que lorsqu'on est député, c'est la règle du jeu. Il faut faire partie, cette fois-ci, d'un clan. C'est normal et c'est régulier. Moi, ça m'était, le chemin m'était bouché avec les idées qui sont les miennes. Et c'est pourquoi j'ai été élu au Sénat pendant très longtemps, 27 ans au Sénat ou au Conseil général. Parce que à ce moment-là, on peut s'expliquer par rapport à un corps électoral restreint. Les grands électeurs de l'Allier sont en chiffre rond 1000. Vous pouvez discuter avec 1000 personnes, dialoguer avec 1000 personnes. On ne peut pas dialoguer avec une circonscription qui comprend 100 000 électeurs, ce n'est pas possible. Vous êtes vous allez à des réunions publiques, vous envoyez des papiers que personne ne lit, etc. Vous voyez ? Donc, la politique, c'est la proposition d'objectifs, et ensuite c'est la réalisation de ces objectifs avec les moyens et selon certaines méthodes.
C'est comme ça que le politique acquérera la crédibilité.
Oui.
Qui lui fait défaut en ce moment.
comment voulez-vous que je puisse critiquer sur les antennes de Canal Académie notre pays ? Parce que critiquant notre pays, je nous critiquerai, vous, moi, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui sont français, puisque nous sommes co-responsables de la France, tous, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et en ce moment, on ne peut pas dire que nous vivions la période la plus brillante de la France, et c'est la raison pour laquelle il faut s'arc-bouter, et il faut remonter le courant sans arrêt.
Jean Cluzel, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, était donc aujourd'hui l'invité de Parcours. Jean Cluzel, merci.
C'est moi qui vous remercie de tout cœur.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.